Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffuserons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue au programme de ce mardi 5 juillet. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, et au cours de l'émission, le journal, les sports et une nouvelle rubrique de la politique australienne. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce 5 juillet, les autorités avertissent que les inondations en Nouvelle-Galles du Sud sont loin d'être terminées. La Reserve Bank devrait augmenter les taux d'intérêt ce mardi. L'Australie a enregistré plus de 10 000 décès dus au Covid-19 avec plus de 70% des décès signalés au cours des 6 derniers mois. La State Emergency de Nouvelle-Galles du Sud prévient que de fortes pluies sont toujours à prévoir, avec de gros risques d'inondations également. Le ministre fédéral de la gestion des urgences a averti les communautés ravagées par la pluie du Grand Sydney de se préparer à ce qui pourrait être les pires inondations des 18 derniers mois. Le sénateur Murray Watt a déclaré que le gouvernement fédéral s'est engagé davantage pour déployer les forces de défense pour répondre aux urgences au sein de l'État, alors que les autorités exhortaient les parents à reconsidérer leur projet de voyage pendant les vacances scolaires. Pour plus d'informations sur les ordres d'évacuation, les fermetures de routes et les avertissements du bureau de la météo, appelez le 132-500, le 132-500 ou le 00 en cas d'urgence. Le commandant adjoint des services d'urgence de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, Ashley Sullivan, a déclaré que les services d'urgence avaient répondu à des milliers d'appels hier soir.
Busy night overnight for the New South Wales SES and NARC communities. 5,300 requests for assistance attended to by the New South Wales SES, 252 of them flood rescues. The threat is going to remain into today and into tomorrow. Even when it does stop raining, the flood threat is going to remain.
Le trésorier fédéral a averti que de nombreux Australiens peuvent s'attendre à une journée difficile avec la Reserve Bank qui devrait à nouveau relever le taux d'intérêt. Les économistes prédisent que le conseil d'administration de la RBA annoncera une hausse des taux, le portant à 1,35%. S'adressant sur ABC Breakfast, le trésorier Jim Chalmers a reconnu que les pressions financières se durcissent pour les Australiens.
And what that means is an even bigger proportion of people's family budgets will be eaten up by mortgage repayments at the same time as they've had to find room for the essentials of life. Unfortunately, we've got a very difficult combination of circumstances, natural disasters, inflation, rising interest rates. And our job as the new government is to try and build an economy and a budget which is as resilient as the Australian people prove themselves to be again and again.
L'Australie a enregistré plus de 10 000 décès dus au Covid-19 avec plus de 70% des décès signalés au cours des 6 derniers mois. C'est par rapport à 2021 quand environ 1300 personnes sont mortes. Les experts avertissent que le virus est en passe de devenir la deuxième cause de décès en Australie cette année derrière les maladies cardiaques. Le virologue Nigel McMillan de l'université Griffith déclare que si la tendance actuelle des décès dus au Covid se poursuit, il pourrait y avoir 14 000 décès dus au virus d'ici la fin de l'année. Certains États et territoires réfléchissent à la décision de réintroduire les mandats du port du masque alors que les cas de Covid-19 se multiplient à travers le pays. L'Australie a déclaré à l'Organisme mondial de l'énergie nucléaire que l'achat des sous-marins à propulsion nucléaire n'aggraverait pas la propagation des armes nucléaires dans la région. La ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, a rencontré hier lundi à Adélaïde le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, dont le travail est considéré comme crucial pour la paix et la sécurité mondiale. Ils ont discuté du rôle de l'agence dans la résolution des problèmes de prolifération nucléaire en Iran et en Corée du Nord.
We had a long conversation and I was reassured by her strong commitment to make sure that Australia is unfailing in its commitment to non-proliferation.
Au moins 6 personnes ont été tuées et 24 personnes blessées après qu'un homme armé a tiré des coups de feu lors d'un défilé du 4 juillet dans la banlieue de Highland Park, près de Chicago, aux États-Unis. C'est ce qu'a annoncé la police locale.
His name is Robert Bobby E. Crimo, C-R-I-M-O, the third. He is 22 years of age. We have numerous federal, state, and local law enforcement agencies working on apprehending this person of interest. We continue to receive tips from the public and law enforcement partners, and we are following up on every one of them.
Be very vigilant. This person is on the loose. We're working to try to figure out if he is local or if he has taken off to another area. We have multiple teams doing that right now.
La première ministre suédoise Magdalena Andersson s'est rendue à Kiev juste un jour après la visite du premier ministre australien Anthony Albanese. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les forces armées de son pays continuaient de résister aux attaques russes. Madame Andersson a déclaré que la Suède restait engagée avec d'autres dirigeants dans ses efforts pour tenir la Russie responsable de ses actions.
Today I had a chance to visit the surroundings of Kiev, and I've seen streets and squares where family homes have been replaced by bomb craters, flourishing small businesses have been demolished, where horrific crimes have taken place. And since the 24th of February, Sweden stands even closer with Ukraine through political, humanitarian and financial support.
Retour sur la visite de Anthony Albanese en Ukraine dimanche, qui a déclaré qu'il fallait que l'Australie joue son rôle dans l'isolement de la Russie en réponse à l'invasion de l'Ukraine. Anthony Albanese a parlé de la perspective de la réunion du G20 en Indonésie en novembre prochain, si le président russe tenait à y assister.
If it is the case that Mr. Putin attends that meeting, and I'm not sure whether he will or not, he will get the reception that he deserves, which is not one of a friend, not one of someone who respects the international rule of law, and not someone who regards in a way which is consistent with the values of the world in 2022.
Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il aurait préféré que la visite de Anthony Albanese se soit déroulée pendant une période plus tranquille, mais il a remercié l'Australie pour son soutien de haut niveau. Et puis les Russes ont pris la ville de Lysychansk et toute la région de Lugansk. Les Ukrainiens sont en situation défensive, comme l'explique l'ancien colonel Pierre de Jong sur RFI.
Les Russes manœuvrent plutôt assez bien. Ce qu'on voit bien qu'ils ont concentrer leurs moyens sur le Donbass, qui est l'objectif prioritaire. Donc l'ensemble des moyens sont basés là. Et puis de temps en temps, vous voyez bien, depuis quelques semaines, si vous voulez, ils procèdent à un tir sur Kharkiv dans le nord, un tir sur Nikolaïv dans le sud, un coup sur Odessa. Deux messages envoyés par ces tirs. Le premier message, c'est un, nous, Russes, on est capable de vous appliquer des feux globalement sur l'ensemble du pays. Donc, et puis le deuxième point, ces attaques, si vous voulez, de harcèlement, elles empêchent les Ukrainiens de se désengager d'un endroit ou d'un autre et, si vous voulez, et renforcer le Donbass. Concrètement, on aurait pu imaginer que les Ukrainiens récupèrent un bataillon ou une brigade, plusieurs milliers d'hommes à Odessa et les mettent en place sur le Donbass pour pouvoir résister. Et là, ils n'y arrivent pas, puisqu'en fait, aujourd'hui, la menace, elle est non seulement vive et forte dans le Donbass, mais également elle se répartit sur l'ensemble du territoire.
Et en Suisse, on pense à la reconstruction de l'Ukraine de l'après-guerre. Lors d'une conférence ouverte hier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pris la parole par visioconférence. Reportage Jérémy Lanche pour RFI.
Premier à s'exprimer, protocole oblige, le président suisse Ignacio Cassis a rappelé en ouverture de la conférence que la reconstruction doit avoir lieu en même temps que les réformes, qu'il s'agisse de la lutte anticorruption quasiment endémique en Ukraine ou de la justice dont le bon fonctionnement doit être garanti. La présidente de la Commission européenne est allée plus loin. Ursula von der Leyen a plaidé pour que l'Ukraine se relève plus européenne et plus verte, en accord avec les aspirations d'une jeunesse inquiète pour l'avenir de la planète. Un vœu pieux pour le moment. L'urgence pour les Ukrainiens, c'est bien sûr d'arrêter les combats qui ont fait des millions de déplacés et ravagé les infrastructures. 750 milliards de dollars sont déjà nécessaires pour reconstruire le pays, a affirmé le Premier ministre ukrainien Denis Shmigal, qui a une solution toute prête pour financer les travaux, piocher dans les avoirs de la Russie gelés à l'étranger.
En France, le nouveau gouvernement Borne 2 avec 21 femmes et 21 hommes. Le gouvernement est déjà au travail, comme l'explique Valérie Gasse pour RFI.
Cette fois-ci, le quinquennat démarre vraiment. Après une période de flou depuis les élections législatives, l'équipe d'Elisabeth Borne est donc désormais au complet et débarrassée d'un élément perturbateur, Damien Abad. C'est d'ailleurs sur ce sujet qu'Olivier Véran a répondu à la première question qui lui a été posée. Et le nouveau porte-parole du gouvernement a évacué le problème très rapidement, estimant que les conditions de sérénité n'étaient plus présentes pour permettre au ministre transfuge des Républicains d'exercer sa fonction, qu'il aurait été exposé aux foudres du Parlement. Parlement devant lequel Elisabeth Borne va s'exprimer mercredi en prononçant son discours de politique générale, à l'issue duquel elle ne demandera pas la confiance. La première ministre y a renoncé. Ce n'est pas une obligation, a expliqué Olivier Véran, évoquant les précédents, dont celui de Michel Rocard. Dans les coulisses, on explique qu'un vote de confiance qui n'aurait pu être obtenu que grâce à l'abstention des députés du Rassemblement national aurait envoyé un mauvais signal à l'opinion. En l'absence de coalition, ce dont a pris acte Emmanuel Macron au début du Conseil des ministres, le gouvernement va donc essayer de bâtir des alliances au cas par cas. Premier test, le texte sur le pouvoir d'achat qui sera présenté jeudi à l'occasion d'un nouveau Conseil des ministres, le deuxième en une semaine.
Et on passe à la météo pour ce mardi en Australie, à Perth. Il fera 17 degrés, Adélaïde 15 degrés, Melbourne 15 également, Hobart 15, Canberra 13, Sydney 18 degrés, Brisbane 16, Cairns 23, Darwin 27 et à Alice Springs maximal de 15 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi 5 juillet. Les autorités avertissent que les inondations en Nouvelle-Galles du Sud sont loin d'être terminées. La Reserve Bank devrait augmenter les taux d'intérêt ce mardi. Et puis l'Australie a enregistré plus de 10 000 décès dus au Covid-19, avec plus de 70% des décès signalés au cours des 6 derniers mois.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Des sports de ce mardi 5 juillet 2022 au programme du tennis, de la Formule 1 et du cyclisme bien sûr. On débute ces actualités sportives par le tournoi de Wimbledon qui est entré dans sa deuxième semaine. Deux Australiens sont toujours en lice, Nick Kyrgios et Hayley Tomljanovic se sont qualifiés pour les quarts de finale. Nick Kyrgios qui a battu l'Américain Brandon Nakashima en 5-7. L'Australienne, quant à elle, l'a emporté sur la Française Alizé Cornet, 4-6-6-4-6-3. Hayley Tomljanovic qui a du mal à réaliser rejoindre les quarts de finale pour la deuxième fois de suite au tournoi de Wimbledon. Écoutez cet échange avec la journaliste sur le court juste après la victoire.
Firstly, and most importantly, I can see how emotional you are. Are you all right?
Yeah, I don't know, I didn't really think I could do it, so...
It is absolutely incredible what you've just achieved today. Whenever you play Alizé, it is a battle and a half. Obviously, you've just said to me there that you weren't sure that you could do it again.
Why not? Just because from the get-go, I could tell her level was really high. I didn't know if I could keep up with my physicality, and I know she never goes away. She doesn't give up till the last point, and it's very tough to play against players like that.
Well, you did come away victorious. You're in your second consecutive Wimbledon quarterfinal, and that has not happened. Back-to-back quarterfinals at Wimbledon has not happened for an Australian woman since Jelena Djokic in 1999-2000. So that is an incredible achievement. So can you just tell me what kind of opportunity this is for you now?
I don't even know who I play next. But
do you want to know?
Sure.
Elena Rybakina.
Okay.
It's not the world number one this year.
Yeah. You know, after last year playing Ash, I think I can face anyone. Hopefully, you know, it's going to be a bit of a more of a contest tomorrow. But yeah, I think what I've learned from last year is that I have to bounce back really quickly because there's not a day off. And I think the experience that, you know, you have to move on quickly and forget about the positive emotions and just think about the next match is going to help me for tomorrow.
Après la défaite d'Alizé Cornet, cela signifie qu'il n'y a plus de Françaises sur le tournoi. Harmony Tan s'est elle aussi faite éliminer en huitième de finale par l'Américaine Amanda Anisimova, 6-2-6-3. De son côté, Novak Djokovic s'est facilement hissé en quart de finale, tout comme Rafael Nadal. On écoute l'Espagnol numéro 4 mondial.
Yesterday have been a very beautiful thing. Share court with all these great legends of our sport have been a very emotional moment. And thanks to Wimbledon for that opportunity. The center court 100 years is something very, very special. And for me, just be part of this group of legends have been unforgettable. So very happy for that.
Formule 1 à présent avec le Grand Prix de Grande-Bretagne, c'est Ferrari qui l'emporte, 150 Grands Prix et enfin première victoire de sa carrière pour Carlos Sainz. L'Espagnol était parti pour la première fois également en pole position, il a réussi à conserver cette place au terme d'une course aux multiples rebondissements. On pense notamment au terrible accident dès le premier départ. La voiture de Ganyuzu Alfa Romeo s'est complètement retournée après avoir heurté la Mercedes de George Russell qui venait elle aussi d'être touchée par Pierre Gasly. L'Alfa Romeo est venu percuter le mur de pneus avant d'être arrêté par le grillage au pied des tribunes. Zou a été transporté au centre médical, assis qu'Alex Albon, également impliqué dans l'accident. La course a été interrompue pendant près d'une heure. Les deux hommes vont bien. Côté résultat, victoire de Carlos Sainz, donc Sergio Pérez de Red Bull et Lewis Hamilton Mercedes complètent ce podium. Et du cyclisme maintenant avec bien sûr le Tour de France qui a continué sa grande boucle. Dimanche a eu lieu la troisième et dernière étape au Danemark entre Vejle et Sønderborg. 182 km, une étape remportée par le Néerlandais Dylan Groenewegen. On l'écoute.
Yeah, it means a lot after all what happened. Yeah, also my family. With the loss of my grandfather, also with the born of my kid, but it was a hard time. Yeah, it means a lot, but yeah, I'm really happy with the victory and say thanks to all the people who helped me.
C'est la première victoire sur le Tour de France pour le Néerlandais après son terrible accident avec Fabio Jakobsen au Tour de Pologne. Et c'est aussi la première victoire de l'équipe australienne Bike Exchange Geico dans ce Tour de France. On écoute le directeur sportif Matt White.
Yesterday didn't go as we wanted to do, but you got to move on quickly. That's the secret of achieving anything in life and sport. And the boys didn't flinch an eyelid after yesterday and gave 110% commitment to Dylan. And obviously really, really happy that Dylan could finish it off and win on the biggest stage in our sport.
And now the next?
Next is get to our hotel as quick as possible, have a bit of recovery for the boys tomorrow, and then we start again with our third sprint opportunity.
Ce soir, le Tour est en France, hein, enfin, entre Dunkerque et Calais, 171,5 km, une arrivée sur le front de mer qui devrait profiter aux sprinters. Et pour plus de détails sur ce Tour de France édition 2022, eh bien, rendons-nous en France indirectement. Notre collègue Christophe Mallet est sur place. Il suit la course pour SBS, une interview signée Thomas Mercier.
C'est le 109e Tour de France. On retrouve Christophe Mallet qui est en direct depuis la France, depuis Lille. Bonjour Christophe.
Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ouais, depuis la France, depuis Lille, on est arrivé hier soir très tard dans la nuit. On va parler de tout ça, vous allez voir.
Alors quel effet ça fait de revenir après 3 ans sur le Tour? Je suppose que vous devez être complètement excité. Ça va être le bonheur absolu de pouvoir enfin retrouver les cyclistes faisant le Tour de France en vrai avec SBS.
Ouais, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, presque tout a changé parce que depuis 3 ans, comme tout le monde le sait, il y a eu le Covid. Donc, la vie de tout le monde a changé. Donc, pourquoi le Tour de France n'aurait pas changé également? Donc, du coup, les protocoles sont toujours très serrés en France autour des coureurs. Je pense que c'est les équipes qui veulent ça. Et c'est surtout en train de se tendre presque au jour le jour parce que il y a des cas de Covid qui popent un peu à gauche à droite, ce qui fait que le Tour de France adapte un peu ses protocoles sanitaires. Pour vous donner une ordre d'idée, le public avant était autorisé réautorisé pour la première fois depuis 3 ans à aller au bus voir les coureurs en train de s'échauffer ou à la fin des étapes. Ça a été interdit après la première journée parce que le nombre de Covid devenait trop important autour des coureurs. Donc à partir de maintenant, ça va être aussi le jeu d'éviter de se faire contaminer par le Covid, aussi que de faire des reportages sur le Tour de France.
Le Tour de France a démarré très fort en dehors de ses frontières, à Copenhague, au Danemark, où il y avait d'ailleurs beaucoup de monde, n'est-ce pas Christophe?
Sur l'étape, la première étape, donc sur le prologue, ils ont estimé qu'il y avait à peu près 1,5 million de personnes dans les rues de Copenhague sur un parcours de 13 km. Il faut savoir que la population de Copenhague, c'est à peu près 700 000 personnes. Donc, on peut même penser qu'il y avait 2 fois la population de la ville dans les rues. Énormément de touristes partout, beaucoup de Britanniques, beaucoup d'Allemands, beaucoup de Néerlandais, mais aussi beaucoup de Français. C'était très impressionnant à voir qu'il y avait donc pas mal de drapeaux français autour. La passion du Tour de France est vraiment là. C'est une vraie passion européenne, une passion mondiale, mais c'est aussi une passion française. Et c'est vraiment super important que le Tour de France, justement, s'étende dans des pays voisins. C'est vrai que souvent, la réflexion, quand on dit « Oh, je suis à Copenhague pour le Tour de France », on rigole, on dit « Ah, le Tour de France à Copenhague ». Mais en réalité, tous les 2 ans, le Tour de France part à l'étranger. C'est une tradition et c'est aussi une façon d'aller exporter le savoir-faire français dans le cyclisme. Le Tour de France, c'est la meilleure, la plus grande course de cyclisme au monde. C'est peut-être le plus grand événement sportif régulier tous les ans. Hein. Les autres plus grands sports événements sportifs, on peut penser à quoi? On peut penser aux Jeux Olympiques, à la Coupe du Monde. Ça, c'est tous les 4 ans. Tour de France, c'est tous les ans. Hein. Donc c'est énorme. Et c'est vraiment beau à voir hein, quand on est français de voir que c'est un produit qui s'exporte. C'est aussi la marque France qui s'exporte à l'étranger en dehors donc, des frontières de l'Hexagone.
Alors justement, pendant un mois jusqu'au 24 juillet, on va vivre avec vous sur SBS, le programme en français, un peu les coulisses aussi du Tour de France. Je sais que votre rythme pendant les 20 prochains jours vont être juste fou, c'est-à-dire que vous voyez quasiment très peu le Tour, vous voyez le départ, vous voyez l'arrivée, entre-temps vous avez votre voiture, vous foncez. Comment ça se passe une journée type avec vous, Christophe Mallet?
Ah, ça dépend de ce que l'on fait, c'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment 2 équipes au sein de l'équipe des sports d'SBS. Il y a l'équipe qui va au départ et l'équipe qui va à l'arrivée. Alors si on est au départ, du coup, on doit donc partir, attendre les coureurs partent. Et à partir de là, c'est un peu la cavalcade parce qu'on ne se rend pas compte hein, que les coureurs font peut-être 180 km en quelques heures. On se dit, bon, je vais les battre à n'importe quel moment avec ma voiture. Sauf que nous, on ne les suit pas. On doit faire des parcours itinéraires qui sont souvent beaucoup plus longs. Et si on connaît un peu les routes de France, il n'y a pas forcément des autoroutes partout, même si le réseau autoroutier est bon. Donc du coup, ça veut dire que pour une étape de 180 km, moi je vais peut-être en faire 380. Et 380 en voiture, on ne bat pas forcément 180 km avec les coureurs. Vous le savez comme moi, Thomas, quand une étape va vite, ça va très vite. Et donc du coup, c'est souvent un peu la cavalcade pour arriver donc, sur la ligne d'arrivée à la fin de l'étape et commencer à faire les interviews des coureurs à la fin. Et c'est Comme tout le monde arrive en même temps et qu'ils n'ont pas vraiment le temps pour vous après, c'est un peu la cavalcade de choisir à qui on va parler. Donc c'est vrai qu'étant SBS, on a le choix de 9 coureurs australiens. C'est ce qu'il faut faire en priorité selon les habilités de chacun durant l'étape. Donc voilà, c'est un peu la cavalcade au fond. Et puis après, il faut éditer, publier, envoyer tout à Sydney. Enfin voilà, c'est pas tout repos, c'est vrai. Alors je vais pas me plaindre, hein, j'adore. Et puis après, tout de suite après ça, il faut partir pour le prochain hôtel. Et souvent, le prochain hôtel, il est à une heure de route de où on est. Donc il y a encore pas mal de voitures derrière, avec tous les spectateurs qui quittent les endroits. Enfin voilà, c'est vraiment une espèce de cirque, de chaos total. Mais un peu à la France, c'est-à-dire qu'en fait, je vais employer le mot, hein, c'est le bordel, mais ça marche. Voilà, c'est un peu comme ça.
Et c'est là que les téléspectateurs peuvent se rendre compte aussi de tout ce qui peut se passer pour que le programme soit de qualité sur SBS Sport. Et ça offre aujourd'hui un programme qui permet de suivre au jour le jour le Tour de France. Et d'ailleurs, en parlant du Tour, on va parler un peu sport. Vous avez une idée de qui va pouvoir remporter le Tour, au moins va sortir du lot sur les prochaines étapes?
Il y a vraiment deux gros favoris. Il y a le double vainqueur Tadej Pogačar, qui est slovène. Lui, il a donc remporté les deux dernières éditions du Tour de France. Nous, c'était d'ailleurs bizarre de penser à ça, c'est qu'en fait, Tadej Pogačar, qui ultra domine le sport comme le Tour de France, nous, à SBS, on l'a presque jamais rencontré parce qu'il a brillé sur les deux éditions Covid. Donc c'est vraiment la question d'apprendre à le connaître parce qu'il ne nous connaît pas du tout. En fait, c'est important de connaître les coureurs pour avoir des meilleures interviews, pour avoir un meilleur contact avec eux. Et lui, Tadej Pogačar, qui est donc le super ultra dominateur, on ne le connaît pas du tout. L'autre personne qui peut être intéressante, c'est Primoz Roglic, qui lui donc a échoué deux fois contre Tadej Pogačar. Il est slovène également. C'est un ancien champion de ski, de saut à ski. Il était champion national, il a même dû faire les Jeux Olympiques, je crois, en saut à ski pour son pays, et il s'est reconverti en super ultra champion de cyclisme du vélo. Il a gagné plusieurs fois la Vuelta, le Tour d'Espagne, donc c'est un des gros prétendants au titre. Il a perdu donc deux fois contre Tadej Pogačar de très peu, et je pense qu'il a un peu le nerf entre les dents, je pense, pour pouvoir essayer de le battre justement son acolyte slovène. Et puis derrière, il y a un podium à prendre, et une des vraies possibilités, eh bien, c'est l'Australien Ben O'Connor qui court dans l'équipe AG2R Citroën, donc une équipe française, à culture française, une équipe qui est née dans les Alpes. Et Ben O'Connor, l'année dernière, sur le Tour, il a fini quatrième, donc vraiment au pied du podium, et très très près. Je crois que de mémoire, il devait être à 8 secondes ou 10 secondes du podium. Donc aujourd'hui, Ben O'Connor est très attendu, et l'équipe AG2R Citroën, ils savent très bien qu'ils ont une petite pépite dans leur main, donc ils font très attention à leurs coureurs. Par contre, chose est dite, ils sont très avenants avec nous, parce qu'on est le média australien. L'équipe AG2R est vraiment très sympa avec nous, on nous fournit beaucoup de contenu. Vous allez entendre beaucoup beaucoup parler de Ben O'Connor dans les prochaines semaines à SBS, parce que lui, il peut aussi potentiellement créer la surprise, et pourquoi pas aller gagner ce Tour de France. Ça serait le deuxième Australien de l'histoire à gagner le Tour de France, après Cadel Evans. Et surtout, Ben O'Connor, il est de WA, il est de Perth, et je vais vous mettre simplement une petite puce à l'oreille, le vainqueur du Giro, donc du Tour d'Italie, Jai Hindley, il est aussi de Perth. Ils étaient ensemble, ils se connaissent depuis qu'ils sont gamins, à imaginer ça, le vainqueur du Giro qui serait Jai Hindley, et derrière un autre vainqueur donc du Tour de France qui serait potentiellement Ben O'Connor, ensemble à l'école de vélo, etc. Ce serait quand même extraordinaire pour la petite ville de Midland, qui est juste en dehors de Perth.
Merci beaucoup, Christophe. Juste une petite aparté, vous parliez justement de ce coureur qui était champion de ski jusqu'avant, et c'est vrai que ces dernières années, on a tendance à voir des coureurs cyclistes qui viennent d'un tout autre domaine. Il y en a qui viennent quand même du cyclisme, et notamment du VTT, un qui vient du monde du ski. C'est quelque chose d'assez nouveau ou pas, de voir des sportifs qui arrivent à changer de sport?
Oui, alors ce qui se passe, c'est que je pense qu'il faut inverser la pensée. C'est qu'en fait, le cyclisme, il est vraiment au cœur de plein de sportifs. C'est en fait les skieurs, les coureurs, les joueurs de tennis. Le vélo, le cyclisme, c'est un sport tellement complet pour tout ce qui est cardiaque, par exemple, donc tout ce qui est au niveau de la fonction de la respiration et du cœur, que ben, en fait tous les sportifs quasiment font du vélo, parce que c'est aussi un sport sans impact. C'est pas un sport où on va courir, on va se faire mal aux genoux, on va se faire mal aux pieds. Non, c'est un sport qui roule, si je fais un mauvais jeu de mots. Et donc, du coup, c'est un sport qui est pratiqué par à peu près tous les autres sportifs. Donc, à un moment ou un autre, on est un ultra bon sportif dans un sport. On se dit, on va attendre 2 minutes. Et en fait, je suis peut-être bon à autre chose. Et ce qui se passe, c'est que peut-être les équipes aujourd'hui regardent un peu plus ailleurs que par regarder le trou de la serrure du coureur cycliste, etc., pour essayer de trouver la prochaine petite pépite. Et c'est ce qui s'est passé avec Primoz Roglic, totalement.
Merci beaucoup, Christophe.
Bah, pas de problème, on se reparle dans le courant la semaine. Merci à tous. Merci Thomas et bonjour à tous.
Merci Christophe, à très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine avec Christophe Mallet pour faire le point à nouveau sur le Tour de France.
Voilà pour notre journal des sports de ce mardi 5 juillet. On rappelle que le Tour de France est à suivre tous les jours sur SBS, SBS Sport et SBS On Demand.
Proposons maintenant une chronique politique domestique signée Patricia Meunier, une chronique au cours de laquelle nous revenons sur un fait marquant du paysage politique australien. Aujourd'hui, la visite d'Anthony Albanese en Europe, sa participation au sommet de l'OTAN et sa rencontre avec le président français Emmanuel Macron à l'Élysée.
Anthony Albanese a lancé une nouvelle offensive diplomatique en Europe, cette fois-ci après le Japon et l'Indonésie. Pour commencer, l'Australie a été conviée au sommet de l'OTAN à Madrid avec une délégation d'Asie-Pacifique. Parmi elles, on retrouve les leaders de Nouvelle-Zélande, du Japon et de la Corée du Sud. C'est la première fois qu'autant d'États de la zone Asie-Pacifique étaient invités par l'Alliance. On se demande pourquoi c'est important pour l'Australie qui se trouve à l'autre bout du monde. C'est en effet inhabituel pour un Premier ministre australien de participer à une réunion de l'OTAN. Mais Albanese a raison d'y aller avec les autres nations du Pacifique, même si son voyage lui amène des critiques dans son pays. Parce que les actions de la Russie en Ukraine concernent aussi bien l'Australie que le reste du monde. On écoute le Premier ministre australien.
What we know is that this brutal invasion is having real consequences for the people of Ukraine. This invasion is also having an impact on the world. It's a reminder that even an island continent like Australia across the other side of the world has been impacted by this, with rising petrol prices and the difficult issues relating to the supply chain.
Mais surtout, la guerre en Ukraine affecte la sécurité au niveau mondial, d'autant plus que la Russie est proche de la Chine, un acteur de poids dans l'Indo-Pacifique. On sait qu'une alliance a été conclue entre les deux nations et cette alliance a modifié les stratégies géopolitiques au niveau mondial. La guerre en Ukraine a ressuscité l'Alliance Atlantique, c'est la conclusion qu'on peut tirer du sommet de l'OTAN. Dans cette ambiance de nouvelle guerre froide, l'OTAN a mis l'accent sur deux choses. Tout d'abord, l'Alliance Atlantique a assuré son soutien à Kiev aussi longtemps que nécessaire face à Moscou. Rappelons également que l'Australie est à ce jour le plus important contributeur hors OTAN à fournir des équipements pour l'aide et la défense de l'Ukraine. Ensuite, l'OTAN a relevé le défi que représente la Chine pour sa sécurité future. C'est une nouveauté. Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, s'est exprimé à ce sujet.
China is not an adversary, but of course we need to take into account the consequences for our security when we see China investing heavily in new modern military capabilities, long-range missiles, nuclear weapons, and also trying to control critical infrastructure, for instance, 5G networks in our own countries.
Cette position de l'OTAN soutenue par Anthony Albanese irrite Pékin. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois a d'ailleurs réagi. Il a déclaré que promouvoir une mentalité de guerre froide et inciter à la confrontation entre les blocs est impopulaire et voué à l'échec. Autre moment très attendu du voyage d'Albanese, la rencontre officielle avec le président français Emmanuel Macron à Paris vendredi dernier autour d'un repas d'affaires. L'opération Réconciliation avec l'Hexagone est un succès. Il s'agit d'un geste important après la rupture de la relation amicale entre les deux pays suite à l'annulation brutale en septembre 2021 du contrat de 90 milliards de dollars pour l'achat de 12 sous-marins. L'ancien Premier ministre Scott Morrison avait préféré signer un partenariat d'AUKUS avec les États-Unis et le Royaume-Uni pour l'achat de bâtiments à propulsion nucléaire. N'oublions pas que la France est une puissance importante et essentielle en Europe, mais aussi en Indo-Pacifique. L'Australie a besoin d'entretenir cette relation amicale avec Paris. Un premier geste a été fait avec l'annonce à mi-juin d'une compensation de 555 millions d'euros au constructeur français Naval Group pour la commande annulée. À présent, la rencontre des deux hommes vendredi a débouché sur une relance des relations entre les deux pays, comme l'explique le Premier ministre australien.
My presence here following the invitation of the President represents a new start for our country's relationship. I am looking forward to meeting with President Macron to discuss key global challenges and how Australia and France can work together with others to address these. Australia's relationship with France matters. Trust, respect and honesty matters.
La volonté commune de reconstruire une relation de confiance est bien là. Après le fiasco des sous-marins, il s'agit donc de repartir sur une bonne base, comme le confirme Emmanuel Macron.
Where we speak about the future, not the past. He's not responsible of what happened.
Les deux leaders ont abordé la guerre en Ukraine, les politiques dans le Pacifique et le changement climatique. La nouvelle position du gouvernement travailliste sur ce thème, soit une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 43% par rapport au niveau de 2005 d'ici à 2030, est aussi un facteur de rapprochement. Elle a d'ailleurs été acclamée par plusieurs autres nations. Autre élément d'importance, elle favorise aussi la reprise des discussions pour un accord commercial de libre-échange entre l'île continent et l'Union européenne, grâce à la révision de la politique climatique australienne et à la reprise d'une relation amicale avec la France.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Vous écoutez le programme en français et dans quelques secondes, dans 36 secondes, on passe à la rubrique à table Kitchen Conversations.
Bonjour, ici Audrey Bourget avec un nouvel épisode d'À table Kitchen Conversations. Aujourd'hui, on parle sushi avec le chef Arnaud Ledebeur. Avec son entreprise Uminono, il propose des boîtes de sushi de la plus haute qualité et un bar à Shirashi qui s'agrandira bientôt. Pour le chef français Arnaud Ledebeur, qui a grandi en Normandie, le goût pour le poisson et les fruits de mer est bien ancré.
En Normandie, le poisson, c'est très commun. C'est à la maison, on a toujours mangé beaucoup de poisson. J'ai toujours l'habitude, mes parents qui allaient chercher le poisson sur le marché au poisson vers 8h le matin. Les bateaux, ils ont pêché toute la nuit et ils rentrent au port. Et t'as les femmes des pêcheurs qui vendent le poisson directement de l'autre côté de la route. Donc tout est hyper frais et on a vraiment grandi là-dedans avec poisson frais, les fruits de mer, tout ça.
C'est après des études en cuisine à Lyon qu'il décide d'explorer son intérêt pour la cuisine japonaise et les sushis sous la tutelle du chef Yugo Ishikawa à Bordeaux.
J'adore le riz vinaigré, la texture des poissons, l'ensemble poisson, riz à la bonne température. C'est vraiment une combinaison parfaite. Et c'est vrai que la cuisine japonaise, enfin, surtout les sushis, je trouve qu'il y a quand même un point commun avec la cuisine française où il y a beaucoup d'importance dans la technique, le respect d'une certaine tradition, la provenance des produits, essayer de respecter les saisonnalités. Donc il y a un peu de points quand même. Et après quand même pas mal d'années à faire la cuisine française, en tant que chef, on développe, on comprend mieux le goût, on arrive mieux à équilibrer nos plats. Et les sushis, c'est vraiment une question d'équilibre et c'est important de savoir utiliser ça aussi.
Après son arrivée à Melbourne, il touche un peu à la cuisine française, mais décide rapidement de créer sa propre entreprise de chef sushi à domicile, Uminono.
À la base, c'était surtout l'envie d'avoir mon propre business, d'être indépendant. Avec mon caractère, j'ai beaucoup de mal à avoir un patron. Et aussi parce que je me suis rendu compte que j'étais pas très épanoui à faire la cuisine française. Et pourtant, c'est ce que j'avais appris, je connaissais plus ou moins que ça. Et il y a un moment où j'ai pris confiance et ma femme, elle m'a beaucoup encouragé à démarrer à faire des sushis pour les gens. Parce que j'en faisais beaucoup à la maison, pour les amis, la famille. Et j'ai pris confiance et je me suis dit que j'étais peut-être prêt à servir des vrais clients avec mes sushis. Du coup, ça a démarré. C'était un tout petit business. J'ai juste démarré avec des dîners privés.
Il lance éventuellement des boîtes de sushis premium qui deviennent hyper populaires durant la pandémie et les multiples confinements. Toujours aussi appréciées aujourd'hui, ces boîtes comportent des morceaux traditionnels comme des makis, des nigiri et du sashimi, avec certains condiments plus créatifs.
On essaye de garder un côté assez traditionnel dans la présentation. On veut pas partir dans quelque chose de trop fou. Les sushis, c'est quelque chose qui doit rester assez pur, assez simple. Mais en même temps, si on fait les choses trop simples, peut-être que des fois on s'ennuie un petit peu. Alors on aime bien ajouter des petites sauces, des petits condiments, mais toujours quelque chose de assez délicat et qui va vraiment. C'est quelque chose toujours de très spécifique qui va aller spécifiquement avec tel ou tel poisson. Par exemple, on fait beaucoup avec le kingfish. Donc, on va maturer le kingfish pendant un minimum 4 jours. Et ensuite, on va faire une huile d'oignon rôti et on va mettre un peu de zeste de citron vert par-dessus. Donc, c'est rien de très fou, mais c'est des petites touches par-ci par-là qui vraiment développent le goût et c'est quelque chose de différent.
La boîte signature du Minono est la boîte omakase.
Donc, c'est une boîte pour 2 personnes. Dedans, tu as un rouleau, un maquis, coupé en 8 pièces. Donc, en général, on va faire, ça va être du thon gras. En ce moment, on est en hiver, du coup, on a beaucoup de thon gras. Donc, ça va être thon gras avec de la ciboulette, avec des noix de cajou rôti. Ensuite, tu vas avoir 22 nigiri et on fait en sorte que tu aies 8 seafood différents. Comme ça, l'idée, c'est tout l'omakase, c'est toujours d'offrir une dégustation aux gens. Donc, l'idée, c'est pas que tu achètes ta boîte de sushi et que quand tu manges quand tu ouvres ta boîte, tu as 10 pièces de saumon et 10 pièces de thon. L'idée, c'est vraiment d'avoir un maximum de variété. C'est ça qui est intéressant avec les sushis.
L'an passé, Arnaud Ledebeur a aussi ouvert un petit bar de 6 places à Prahan où il sert des shirashi, des bols de riz recouverts de sashimi pour le lunch.
L'idée, c'est vraiment de faire un endroit très convivial. C'est seulement 6 personnes au comptoir. On n'a pas de table derrière. Donc, quand les gens viennent, c'est vraiment intime. C'est un peu comme si on avait des amis qui venaient manger à la maison. Et on est ensemble pendant 1 heure. Et on passe un bon moment. Donc, des fois, tu as des gens, ils ont pas envie de parler. Des fois, il y a des gens, ils adorent parler. On parle de tout et de rien, pas forcément de cuisine. C'est vraiment comme avoir des amis qui viennent à la maison.
Dans quelques mois, Uminono va déménager dans un local un peu plus grand, toujours dans le quartier de Prahan. Le chef offrira encore ses boîtes de sushi et le bar à shirashi, mais pense aussi élargir son menu.
J'espère pouvoir ouvrir début octobre, en étant un petit peu optimiste. Donc, ça va être le même concept. Donc là, en ce moment, on avait 6 places assises. Je pense qu'on va passer à peu près à 10 places assises. Pareil, concept très intime, toujours les clients assis au comptoir avec la vue sur la cuisine, sur tout ce qu'on fait, il n'y a rien à cacher. Toujours ouvert que le midi, on va continuer à faire les boîtes à emporter sur le même système. Et la différence, c'est qu'on va essayer d'avoir un peu plus un peu plus de roulement. En ce moment, on fait que deux sittings. Et je pense qu'on va, je sais pas exactement comment faire, mais je vais réfléchir à un système où peut-être les 2 premiers services, les gens doivent réserver, et peut-être qu'après, jusqu'à 5 heures, les gens peuvent juste passer, manger sans réserver, et s'il y a la place, il y a la place, sinon, bah, tant pis. Et donc, ce serait l'idée. J'aimerais bien un endroit encore un peu plus vivant, plus de passage, plus de vie, et toujours garder cet esprit très convivial. Donc, en ce moment, on faisait que les shirashi. Et dans le prochain restaurant, j'aimerais bien introduire un menu omakase express. Donc, en gros, l'idée, ça serait pour les gens qui viennent manger le midi, en 1 heure de temps, de pouvoir manger une dégustation nigiri avec peut-être un petit dessert, une petite entrée et voilà.
Si vous n'avez pas encore goûté au sushi du Minono, sachez que l'hiver est la saison idéale.
L'hiver, je trouve que c'est vraiment le meilleur moment pour les sushis. Il y a plus de variété et la qualité des poissons, c'est vraiment extra. Le plus excitant pour nous, c'est le thon. Toutes les semaines, on reçoit du thon, on communique avec notre fournisseur de poissons. Et chaque semaine, ça va être différent. Autant une semaine, on va recevoir du thon très petit qui va faire seulement 40 kilos. C'est petit pour un thon, mais qui va être extrêmement gras. Et quelques jours après, on va recevoir un thon qui fait peut-être un morceau de thon qui vient d'un thon d'une centaine de kilos, mais qui va être un peu moins gras. Donc à chaque fois, le goût, les textures, tout va être différent. Ensuite, on fait beaucoup de maturation sur les poissons. Donc pareil, tout ça va jouer. C'est vraiment une l'hiver, c'est vraiment une saison intéressante pour ça.
Pour commander votre boîte de sushi ou réserver votre place au bar de Minono à Prahran, rendez-vous au uminono.com.au.
En fin d'émission, un rappel des grands titres. Les autorités avertissent que les inondations en Nouvelle-Galles du Sud sont loin d'être terminées. La Reserve Bank en Australie devrait augmenter les taux d'intérêt ce mardi. Et l'Australie a enregistré plus de 10 000 décès dus au COVID-19 au cours des 6 derniers mois. Nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est jeudi à partir de 13h sur les ondes de SBS en français. À très bientôt. Belle journée. D'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.